Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, le libre journal des controverses, comme tous les samedis à 10h30. Je salue mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker, assisté de la Rastam. Je salue bien entendu notre ami Nini Vlam, Virginie, qui fait son retour à la réalisation ici à Radio Courtoisie. Nini Vlam, qui chante en ce moment, qui chante beaucoup d'ailleurs en ce moment, prépare un album. Est-ce qu'on va l'entendre dans des concerts très vite? Je ne sais pas, la surprise est là, bien entendu. Je salue Patrice, l'homme à la belle écriture, il est là pour recevoir tous vos coups de fil, et n'hésitez pas à le bombarder de coups de fil. Je reçois ce matin Michel Fiz, sociologue. Alors, il a écrit certes Le Président Normal, mais il a écrit là un nouveau bouquin, Dans la tête d'Emmanuel Macron, aux éditions Géopolitique Profonde. Et visiblement, cher Michel, dans la tête, il y a des choses, il y a des coins, il y a des tiroirs, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à l'endroit, si je puis dire.
Oui, alors j'aimerais d'abord rappeler, parce que j'ai en tête ce que l'on dit de Donald Trump tous les jours, hein, le refus de l'interrogation psychologique. Hein. On finit, quand on écoute Donald Trump, à s'amuser hein, de ses volte-face, de ses déclarations à l'emporte-pièce, hein, de ses revirements d'une minute à l'autre, voilà. Sans avoir le courage de s'interroger hein, sur, encore une fois, l'état de santé de cet homme. Voilà. Et je trouve que ça, c'est extrêmement préoccupant. Alors, ça vaut évidemment pour notre ami Emmanuel Macron, dont nous allons parler. Voilà. On est toujours un peu comme à tourner autour du pot, voilà. Comme si l'interrogation psychologique était un tabou. Voilà. Il ne fallait pas interroger, voilà. Et a fortiori, pas celui qui est le chef de l'État. Je voyais il y a quelques jours, on a reparlé du bulletin de santé d'Emmanuel Macron. Voilà. Et effectivement, il n'a communiqué qu'à deux reprises, hein, pour dire en 2020 qu'il avait le Covid. Voilà. Et puis plus récemment, qu'il avait un petit vaisseau dans l'œil qui avait claqué et entraîné donc la pose de ses lunettes d'aviateur. Voilà. Donc lui, il se refuse au nom du secret médical. Hein, voilà. Il invoque le secret médical pour ne rien dire de son état de santé. Alors, je crois qu'il faut, la deuxième chose, dire que tout renseigne chez une personne. Les mots qu'il emploie, bien sûr, mais aussi les postures, les expressions du visage, hein, la couleur des yeux qui peut changer d'ailleurs d'une intervention à une autre. Alors, quand on regarde et qu'on écoute attentivement Emmanuel Macron, bah, deux choses viennent évidemment spontanément à l'esprit de tous. Bon, petit un, il y a quelque chose qui manifestement ne tourne pas rond chez cet homme. Et deux, et ça me paraît de plus en plus essentiel, il a vraiment des attitudes de gamin. Alors, être gamin, c'est pas en soi une infortune, voilà, mais de gamin immature. Alors, évidemment, on dira, oui, mais il gouverne. Il gouverne, oui, parce que les perturbations pathologiques, bon, dès lors qu'elles sont pas gravissimes, n'effacent jamais totalement les capacités intellectuelles.
Donc, mais justement, cher Michel, vous avez vu, j'imagine, la séquence G7. Vous avez vu les postures, le champ lexical, etc., d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, personnellement, ça m'a rappelé aussi quelques scènes avec Nicolas Sarkozy où ce côté immature sautait un peu aux yeux. Vraiment, honnêtement, pour vous le dire, j'ai eu honte.
Honte?
J'ai eu honte. Voilà.
Ah, c'est des mots forts, ça.
Oui, j'ai eu honte parce que j'ai vu un personnage, voilà, qui se comportait comme un gamin, hein, souriant, tapotant, essayant peut-être encore de croire, mais le croit-il vraiment que Donald Trump est son ami? Ce qui n'est pas le cas. Donald Trump méprise Emmanuel Macron. Bon, et ça, effectivement, il l'a dit à plusieurs reprises, etc. Donc, les contre-déclarations ne changent rien, changent rien à la chose. Voilà. Donc, je me disais, mais finalement, il manque à Emmanuel Macron que les culottes courtes, alors qu'on ne porte plus depuis belle lurette. Voilà. J'avais un sentiment de profond malaise, de profond malaise. Voilà. Hein, ce gamin qui était tout content d'avoir amené Donald Trump au château de Versailles, voilà, pour lui montrer combien il était puissant en étant le président des Français. Parce qu'en finalement, c'était pas tant de chercher à séduire Donald Trump qu'il était là. Il se séduisait lui-même, voilà. Hein. Il se mettait dans cet acteur principal, hein, puisque bon. On le sait, on l'a souvent dit ici et à GPTV. Ouais, c'est un acteur, hein,
Oui,
un
mais
acteur.
est-ce que
Donc,
le fait que Donald Trump ait signé à Versailles, est-ce que ça, c'est pas une victoire diplomatique de Monsieur Macron?
alors, il faut être effectivement le plus objectif possible. Voilà, ça, c'est plutôt un bon coup. Voilà. Mais encore une fois, c'est aussi un bon coup pour Donald Trump. Peut-être autant pour Donald Trump que pour Emmanuel Macron, parce que c'est une façon de montrer, voyez, cet accord, je l'ai obtenu, et non seulement je l'ai obtenu, mais en plus, il est signé plus rapidement que ce qui était prévu. Et en plus, dans ce lieu solennel, hein, où je me trouve, moi, empereur des États-Unis. Bon, donc effectivement, chacun est gagnant, mais ne soyons pas de mauvaise foi. Oui, bon, ça, c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron.
Donc du coup, vous avez eu honte quand vous avez vu justement cette séquence G7. Est-ce qu'elle montre que voilà, on a affaire à quelqu'un de vraiment d'anormal, qui ne voit que par son prisme?
Oui, ben c'est le propre, là aussi, je l'ai souvent dit, c'est le propre de la mégalotimie, hein. C'est-à-dire cette espèce de besoin irrépressible que l'on a de se mettre au centre de tout, hein, d'être là, dans la star mondiale, hein, de se considérer comme le premier influenceur au monde, hein, ce qui évidemment nous mène, dès lors qu'on est dans l'excès, dans une pathologie. Voilà. Bon, donc encore une fois, je crois que sans tomber dans le travers qui finalement dessert l'analyse, parce qu'à force de dire c'est un psychopathe, c'est un pervers narcissique, c'est tellement outrancier et peu démontré que finalement on dit bon ben tournons la page, hein, passons à autre chose. Je crois qu'au contraire, comme je le fais depuis maintenant plus de 2 ans, quand il faut avancer pas à pas et qu'on décrypte symptôme après symptôme, et qu'on met bout à bout ces symptômes, on arrive à dessiner cette personnalité pathologique. Mais il n'y a rien à faire. L'opinion publique ne veut pas entendre. Ne veut pas entendre. Voilà. C'est-à-dire, y a des tabous en France. Hein, voilà, bon, il y en a un qui me tarabusque depuis longtemps, la laïcité. Voilà. Alors, on ne peut pas dire du mal de la laïcité. Hein. La laïcité, c'est la septième merveille de la République française. Voilà. Eh bien, la psychologie, dès lors qu'elle est anormale, c'est un tabou. C'est un tabou. Voilà. Alors on va encore une fois. Bon, tous les gens ont une opinion sur Emmanuel Macron, et toutes ces opinions vont dans le même sens. Voilà. Mais aucune de ces opinions ne se rallie à l'analyse sérieuse que je crois être le seul à avoir fait en France, hein. Avec un travail d'investigation quand même minutieux, hein, parce que lire tous les discours d'Emmanuel Macron, écouter toutes ses conférences de
Vous en avez eu
presse et
du courage, hein?
déclarations, c'est bon, c'est, je vous dis,
C'est
bon, ça
courageux, hein?
me, oui, bon, honnêtement, ça me gonfle un peu quand même, hein, voilà. Mais encore une fois, tout est bon pour un mégalotimiaque. Toutes les occasions sont bonnes.
Mais
Voilà,
comment
encore une
expliquer?
fois.
Voilà, on a quelqu'un qui est théoriquement acculé, qui n'a pas de majorité, qui normalement devrait être en cohabitation, eh bien, il continue, comme si de rien n'était.
Ben, il est très fort parce que les autres sont très faibles. C'est le principe des vases communicants. Plus en face, vous avez une faiblesse affichée, hein, et calculée, hein, parce que maintenant, qui parle encore de la démission d'Emmanuel Macron? Qui parle
Personne,
encore de
personne, c'est
demander?
vrai.
Personne. Ben oui, parce que personne maintenant n'y a intérêt. Hein. Maintenant, tout le monde a le cap sur, évidemment, l'élection présidentielle, qui d'ailleurs va nous réserver probablement des surprises, je ne
Ben,
sais pas lesquelles.
j'ai lu ce matin une brève venant de proches d'Emmanuel Macron. Celui-ci voudrait dissoudre l'Assemblée nationale avant les présidentielles.
Oui, parce qu'encore une fois, certains ont pu être rassurés en entendant Emmanuel Macron dire, bon, ben, il passera à autre chose en sortant de l'Élysée, il a pas fait beaucoup de politique avant, il accepte de ne plus en faire après. Bon, ça, c'est encore une fois une déclaration. Moi, je demande à voir, hein, parce qu'une déclaration peut aussi, quand on sait qu'il est le champion des décisions erratiques et contradictoires, à l'image de Donald Trump, voilà. Mais, je redis ce que j'avais dit, je crois, bah sur votre plateau à GPTV. Voilà. Il peut avoir envie de rester. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, il y aura peut-être une suite à ce livre que j'avais intitulé provisoirement Je veux pas partir. Voilà.
Ça veut dire quoi?
Mais
Ça veut dire
il
que,
peut
alors
nous
là
jouer.
c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que il peut rester. Et est-ce que constitutionnellement on peut l'obliger à partir ou il peut justement par le biais de ses amis du Conseil constitutionnel se permettre de rester plus longtemps qu'il ne le devrait?
Oui, alors d'abord, je remplacerai le mot je veux pas partir par quelque chose qu'il pourrait peut-être annoncer. Je peux pas partir dans la situation très compliquée. Je peux pas partir. Voyez? Donc on passe du vouloir, hein, du vouloir à l'incapacité de partir. Alors, il y a peut-être un petit peu des deux. Alors j'entendais aussi un commentaire, bah, citons-le, c'est Philippe de Villiers. Hein, sur l'idée de la guerre. Voilà. Il dit, mais Emmanuel Macron peut très bien faire ce qu'a fait Vladimir Zelensky. Je me mets en guerre, comme ça je ne pars pas. Bon, sauf que en France, le scénario suppose de dire deux, trois petites choses supplémentaires. Voilà. Je déclenche la guerre et j'active l'article 16. C'est indissociable parce que c'est l'article 16 qui permet éventuellement de mener une guerre, voilà, sans avoir un obstacle quel qu'il soit, hein, puisque là aussi, on l'a souvent dit, l'article 16, c'est un mécanisme enfantin à déclencher, et ensuite, bah, vous faites ce que vous voulez pour le temps que vous estimez nécessaire. Alors voilà, ça me
Souvent,
rappelle.
souvent, on nous dit oui, mais la France n'a pas les moyens, etc. L'Ukraine n'a pas. J'imagine que l'Ukraine a quand même beaucoup moins de moyens. Ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Ils n'ont pas l'arme nucléaire. Et pourtant, le pays n'est pas tombé dans son entièreté, quoi. Voilà. Et puis en plus, il faut dire aussi une chose. S'il y a une guerre, il n'y aura pas des tranchées à Verdun. C'est plus ça. Hein. C'est plus ce type
Voilà,
de
alors
guerre-là.
d'ailleurs dans la deuxième partie du livre, mais encore une fois, je n'en parlerai pas.
Mais si,
J'ai
dites-le si vous voulez. Dites-le.
imaginé. Non, faut laisser des
Dites ce que vous
couvertures.
avez imaginé, voilà, dans ce livre, dans la tête de Macron, édition Géopolitique profonde.
Voilà, hein, avec l'idée centrale qui était à l'origine, Macron va-t-il attaquer la Russie? Hein, quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron d'attaquer la Russie? Alors, je crois qu'il faut rappeler deux choses. D'une part, l'obsession russe d'Emmanuel Macron. Bon, hein, il est dans ce que j'avais appelé, c'est une expression de psychanalyse, hein, le miroir narcissique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais digéré le fait que Vladimir Poutine ne lui renvoie pas sa grandeur à lui, Emmanuel Macron. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, que le président russe ne lui est pas renvoyé, hein, cette supériorité politique, diplomatique que Emmanuel Macron est censé porter. Ça, il n'a jamais digéré. Il n'a jamais digéré. Voilà. C'est là où on revient effectivement à cette affirmation de supériorité qui cache un formidable complexe d'infériorité, hein, parce qu'il ne faut pas être extrêmement intelligent pour se rendre compte que cet homme n'est pas bien dans ses bottes. Il n'est pas bien dans ses bottes. Hein, quand on a besoin de mettre des gants de boxe, hein, de taper des poses de virilité en permanence, en toute occasion, bon, il y a quelque chose qui montre que bon, il n'est pas si bien que ça dans sa tête, voilà. Et donc il le manifeste de cette manière. Donc il y a cette obsession qui l'a conduit progressivement à soutenir de plus en plus l'Ukraine et à embarquer de plus en plus l'Europe dans la défense de l'Ukraine. Voilà. Hein, en avançant cet argument qui est faux, mais enfin bon, il l'avance, d'une Europe de la défense. Hein. Alors, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs dans le discours que j'entendais de Philippe de Villiers hier, qui disait, mais comment les choses pourraient radicalement changer en Europe? Eh bien, par l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Car, dès cet instant, on pourrait activer, disait M. de Villiers, j'ai vérifié, hein, l'article 47, l'article 42.7 du traité de Lisbonne, hein, qui oblige les États européens à porter secours à l'un des leurs attaqués. Hein, c'est la copie conforme de l'article 5 qui s'applique à l'OTAN. Donc, l'Ukraine, devenue membre de l'Union européenne, ben, verrait évidemment venir vers elle tous les pays européens qui n'auraient pas le choix, hein, c'est-à-dire qui devraient intervenir pour soutenir un des leurs, donc attaqué par un ennemi extérieur. Alors, ceci étant, bon, l'adhésion de l'Ukraine, il y a des procédures, hein, bon, on peut en accélérer certaines, mais il y a quand même des procédures que l'on peut suivre.
Mais Monsieur de
Voilà,
Villiers
alors,
disait la
la
semaine
dernière chose.
dernière, Monsieur de Villiers disait la semaine dernière, justement, Emmanuel Macron veut la guerre. Ce sont ses mots à Philippe de Villiers. Et j'imagine que Philippe de Villiers a certaines informations que peut-être nous n'avons pas. Je rappelle que Philippe de Villiers est le frère du général de Villiers, ancien chef d'état-major de l'armée française. Il doit avoir encore des liens avec des grands généraux, des grands commandants de l'armée française qui peut-être lui disent certaines choses. Et puis n'oublions pas que l'actuel chef d'état-major de l'armée française a parlé de guerre avec l'Ukraine. Il a parlé ça, il a dit ça en 2025, dans les 3 ans à venir.
Voilà, mais là, vous voyez, on est aussi de la part souvent de ceux qui nous écoutent, alors pas forcément ici, mais un petit peu ailleurs, dans quelque chose qui est de l'ordre de tabou, c'est-à-dire imaginer une guerre entre la France et la Russie ou entre l'Europe et la Russie, ça paraît farfelu. Voilà. Alors qu'en fin de compte, hein, depuis le discours de l'île longue, hein, long discours, hein, où
Qu'est-ce qu'il dit
effectivement
ce
il
discours
rappelle.
justement?
Ben, toujours la menace existentielle que représente aujourd'hui la Russie, non seulement pour la France, mais pour l'Europe tout entière. Voilà, donc le surarmement de la défense en France, le surarmement européen pour faire face à une menace qui est identifiée. Hein. Vous rappelez le chef d'état-major des armées, oui, il est le relais de son maître, hein, c'est la voix de son maître. Voilà, la Russie, préparons-nous, elle va nous attaquer, et donc il faut que nous soyons prêts à nous défendre. Alors, la dernière chose que je veux dire par rapport à ceci, c'est que le 14 juillet va être mis, hein, sous les auspices de l'Ukraine, hein, quelque
C'est vrai.
part. Hein. Alors là, bon, vous avez peut-être entendu comme moi, il y a toutes sortes de choses qui circulent, qui ont été démenties. Hein. On a annoncé un bataillon ukrainien de 70 000 hommes. Défilant sur les Champs-Élysées. Bon, les autorités militaires ont démenti. Alors bon, comme on dit, info ou intox. Bon, en tout cas, l'Ukraine sera représentée je crois, au niveau des forces d'aviation, hein, il y aura, je crois, des pilotes ukrainiens, hein. Donc, il y a quand même tout un scénario de mise en scène, pour mettre en avant l'Ukraine. Donc, évidemment, fatalement, pour abaisser la Russie, hein. Toujours le principe des vases communicants, hein. Ça veut dire, bon, tout ceci montre de la part du président français, bah, voyez, on aide l'Ukraine. Voilà. Alors, évidemment, le risque dans tout ça, c'est quand même de pousser à bout Vladimir Poutine.
Oui,
Bon.
mais Vladimir Poutine, il a quand même des nerfs d'acier. Visiblement, il comprend la manœuvre. Et je doute que Poutine déclare la guerre, sauf si, bon, bah, il venait à quitter le pouvoir, peut-être, ce qui c'est pas impossible. Et que peut-être un de ses successeurs, justement, déclarerait la guerre. Parce que j'imagine que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit la Russie qui déclare la guerre à la France ou à l'Europe, et pas le contraire.
Voilà, alors là, vous avez raison, les nerfs d'acier, oui, pour le moment, je crois que ça se vérifie encore, mais il est vrai que maintenant, Vladimir Poutine doit faire face quand même à une contestation plus ou moins affirmée, en Russie elle-même, hein, parce que, encore une fois, bon, évidemment, cette guerre qui se prolonge, bah, évidemment, ne fait pas que des heureux, hein, en commençant par évidemment les familles des victimes sur le front ukrainien. Donc peut-être que y a une puissance qui est moins forte et que alors on peut imaginer aussi un scénario où une guerre contre la France permettrait de redorer aussi le blason. Voilà, mais là on pousse les choses, hein, très très loin. On est vraiment dans la spéculation. Non, parmi les scénarios que vous évoquez, évidemment. Hein, on ne va pas avoir un débarquement de forces massives françaises sur le sol ukrainien. Hein, ce serait un peu à l'image de ce que peuvent faire les Américains, un petit peu de force spéciale par ici, un petit bombardement par là. Voilà, juste de quoi bien énerver l'adversaire. Voilà, mais peut-être évidemment en le touchant sur des zones suffisamment sensibles pour appeler à une
Oui,
riposte.
parce que
Hein,
les
parce
gens,
que
alors vraiment, faut bien expliquer ce que signifie guerre, parce que les gens, dans leur imaginaire, tout de suite, ils voient les taxis du maréchal Foch, ils voient Verdun ou Chemin des Dames, ou pour être plus récent, ils voient la ligne Maginot, l'occupation, etc. Aujourd'hui, si il y a guerre, c'est pas de ce type-là. Vous confirmez?
bien sûr que non, bien sûr que non. D'ailleurs, ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran montre qu'on est encore dans un scénario ancien de guerre, hein,
Bien
où
sûr.
effectivement des bombardements massifs, voilà un engagement quand même relativement important. Bon, là évidemment, avec toutes les technologies nouvelles, les drones, les missiles plus ou moins à longue portée, moyenne portée, bon, on voit bien, hein, bon, on peut tout calibrer, hein, l'Ukraine arrive à tirer des missiles aujourd'hui en plein cœur de la Russie, hein, à 1500 kilomètres. Donc, il y a, et c'est ce que j'explique dans les trois scénarios ou quatre scénarios que j'évoque dans le livre, voilà, ça peut être un petit peu tout ça, c'est-à-dire un petit coup, une petite attaque en Crimée, tiens, parce que bon, ne faudrait pas l'oublier quand même, hein, un petit coup, voilà, quelques forces spéciales au plus près du front ukrainien, bon, peut-être quelques cibles militaires sur le sol russe, voilà. Donc, à un moment donné, n'importe quel État qui est attaqué, bon, on a beau avoir des nerfs d'acier, il faut, par respect de soi-même, par respect de son pays, voilà. Alors, je pense que Vladimir Poutine n'est pas dupe de tout ce jeu, voilà. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça aille trop loin, parce que je pense que le projet d'Emmanuel Macron, hein, là aussi, on l'avait dit, bon, avant qu'il ne déclare qu'il ne ferait plus de politique, hein, j'avais dit, bon, après roi de France, roi d'Europe. Voilà. Et comment je deviens roi d'Europe? En étant d'abord le chef d'état-major de l'armée européenne. Hein. Parce qu'encore une fois, comment mieux exprimer la toute-puissance que par la guerre? Voilà. Donc vous êtes d'autant plus puissant que vous êtes un guerrier, un chef de guerre, hein, à la Jeanne d'Arc, au général de Gaulle, etc. Hein, voilà. Et puis, conjugué à tout ça, ben, comment rester au pouvoir? Par la guerre.
C'est
Par la
vrai.
guerre.
La guerre,
Voilà.
soit extérieure, soit intérieure, parce que ça aussi, il ne faut pas le négliger.
Voilà. Alors, c'est là où effectivement, étant peut-être ce qui sera le deuxième opus après dans la tête de Macron, hein, il y a ce différent scénario qui fait que si les choses se passaient à peu près comme on pense qu'elles vont se passer, c'est-à-dire une victoire du Rassemblement national, voilà. Et si l'on suit les déclarations de la France insoumise qui a marqué l'idée qu'elle n'accepterait pas cette situation, on a une guerre civile annoncée. Une guerre civile annoncée. Voilà. Et on se retrouve dans le scénario où il peut y avoir le jour de l'élection, eh bien des désordres suffisamment importants pour au moins décaler la prise de fonction du président ou de la présidente élue. Voilà. Parce que là aussi, on est un peu dans un vide constitutionnel.
Comment
Hein?
ça?
Alors, bah, c'est-à-dire que entre le passage de témoin politique, si l'on peut dire, il s'écoule entre une semaine, 15 jours tout au plus. Hein, je crois qu'on a eu un peu les deux scénarios avec tous les différents dans la République. Voilà. Donc, le président élu, enfin, ou le président qui va s'en aller n'est pas tenu de remettre les clés d'Élysée le lendemain, hein, ou le soir même. Voilà. Or, si désordre, comme on dit, chaos, il devait y avoir, ce serait le soir même, hein, évidemment, ce serait le soir même. Voilà. Ce qui, évidemment, là, pourrait justifier, ben, le recours,
Bien sûr.
bon,
Et puis
l'état d'urgence,
on a vu en
l'article 7.
introduction en juillet 2023 les émeutes qui ont été quand même, je crois qu'on dirait 2 3 semaines, mais qui ont été d'une intensité rare. Les forces de l'ordre n'avaient pas à l'époque réussi à mater ça. Ils ont attendu peut-être un essoufflement ou peut-être une lassitude de la part des émeutiers. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, avec l'âge aidant, ces jeunes, et puis en plus avec la France insoumise derrière, qui peut-être tirerait les ficelles, eh bien on aurait des émeutes beaucoup plus importantes en intensité.
Oui, parce que là, on a quand même créé un panorama politique avec deux forces. Moi, je les appelle pas extrêmes, parce que du point de vue de la sociologie politique, c'est aussi absurde de traiter le Rassemblement national de parti d'extrême droite que de traiter la France insoumise de parti d'extrême gauche. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle, enfin bon, pour ceux qui aiment l'histoire, que le parti d'extrême gauche à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, c'était le parti radical. Le parti radical, hein, ce
D'accord.
parti mollasson d'aujourd'hui,
Un parti
hein, bon,
centriste, centre-gauche aujourd'hui.
voilà, centre-gauche aujourd'hui, un petit peu centre-droit,
Ouais, le
éventuellement.
parti de Borloo et de Jean-Michel Baylet.
Voilà. Mais donc, au 19e siècle, hein, c'était l'extrême gauche. Voilà. Ce qui avait d'ailleurs pas plus de sens à l'époque qu'aujourd'hui, en traitant la France insoumise, la véritable extrême gauche, ce serait lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste. Voilà. Mais même eux, en refusant l'idée de la révolution, ne sont plus d'extrême gauche. Parce que ce qui fait, à mon avis, l'extrême gauche comme l'extrême droite, c'est la violence organisée, systématisée. Voilà. Et ce qui fait la caractéristique de l'extrême droite version nazie, c'est la privation de toute les libertés, hein, de la construction de camps de concentration ou de camps d'internement, voilà, une surveillance policière, une police qui, de républicaine, deviendrait subitement une police genre capot, hein, pour reprendre cette expression. Bon, en tout cas, on a deux radicalités qui se font face, voilà. Et quelle que soit la radicalité qui va gagner, car je doute quand même que dans le marais, comme on aurait dit en 89, il puisse y avoir le successeur d'Emmanuel Macron. Hein. Bon, donc, à mon avis, ce sera ou un membre de la radicalité de gauche ou un membre de la radicalité de droite, le vaincu n'acceptera pas le vainqueur.
C'est-à-dire
Voilà.
que quel pourrait être le scénario? C'est-à-dire que on a entendu Monsieur Bali Bagayoko refuser les résultats, qui refuserait ces résultats. On a entendu Mathilde Panot, Monsieur Bompard, Monsieur Mélenchon dire la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces gens-là organiseraient la sédition?
Je pense que, en tout cas, ils organiseraient un certain chaos. Hein. Ils accompagneraient probablement les réactions spontanées, hein, parce qu'encore une fois, quel que soit le vainqueur, qu'il soit de couleur gauche, hein, ou de couleur droite, hein, il y aura des insatisfaits. Il y aura des citoyens radicaux qui n'accepteront ni une victoire de la gauche, ni une victoire de la droite. Voilà. Donc, il y aura en plus peut-être du système organisé, bon, à gauche, mais peut-être aussi à droite, hein, parce que le Rassemblement national voudra peut-être en profiter aussi pour liquider, hein, les anciens opposants, notamment de la France insoumise. Voilà. Et puis, il y aura tous ces Français.
La France insou enfin l'Assemblée nationale a toujours respecté la légitimité républicaine et puis même là alors que là Madame Le Pen peut être inéligible d'ici 2027 elle n'a pas appelé à la révolution.
Oui, mais parce qu'encore une fois, je pense que ceux qui identifient Front National et Rassemblement National, bah évidemment, n'ont pas bien suivi l'évolution ni des
Forcément.
hommes, ni des choses, etc.
Alors,
Bon.
Michel Fize dans la tête d'Emmanuel Macron aux éditions Géopolitique Profonde, vraiment un livre passionnant. Je vous invite à le lire. Oh là, des commentaires arrivent. Des commentaires, allez, vas-y, amène-moi ça, cher Patrice. Ah! Bonjour, je ne peux pas rester à répondre pour une deuxième fois. Ah, c'est pas dans l'ordre, tiens. C'est pas. Ah non, bon, attendez, je vais prendre dans l'ordre. La guerre Russie-Ukraine est surtout une guerre de l'OTAN qui n'a pas respecté les accords de Minsk contre la Russie. Un commentaire d'auditeur, oui, c'est vrai.
Oui, mais c'est bon. C'est vrai qu'il y a des responsabilités anciennes de l'OTAN qui, après évidemment l'effondrement de l'Union soviétique, hein, avait pris l'engagement de ne pas pousser ses pions davantage à l'est, hein, de manière à assurer une plage de sécurité suffisamment importante pour la Russie nouvelle, voilà, et qui n'a pas respecté ses engagements. Voilà. Alors, ceci étant, pour moi, ça ne justifie rien de ce qui a pu se passer ensuite. Hein. Encore
Sûr.
une fois, une injustice n'est pas réparée par la commission d'une autre injustice.
C'est
Hein. Moi,
clair.
je suis comme ça.
Alors un commentaire. Bonjour. Chez Trump, les revirements à grande vitesse semblent montrer une instabilité de l'humeur, voire une baisse des facultés cognitives, combinée avec une agressivité exacerbée. La grossièreté des propos serait aussi évocatrice d'une perte des inhibitions. Ce tableau serait évocateur d'un début de décompensation d'une démence sénile, probablement d'origine vasculaire, et pouvant être aggravée par la charge de sa fonction. Pour Macron, il faut rappeler les constatations de psychologues cliniciens sur la génération actuelle des jeunes politiciens ou dirigeants de haut niveau. Il constate que ces jeunes dirigeants montrent une combinaison de trois caractères ordinaires, mais à des niveaux anormalement élevés. 1. Narcissisme exacerbé et il est flagrant avec l'histrionisme des discours grandiloquents, le syndrome Malraux. 2. Une psychopathie chez des gens élevés dans la protection contre toute frustration. Un monde bisounours à la Dolto qui les prive de toute compassion pour la douleur qu'ils ignorent chez les autres, avec également un défaut dans la constitution du surmoi. 3. Un machiavélisme qui résulte de cette absence de surmoi et qui les fait passer pour des politiciens habiles alors qu'ils se décrédibilisent. Bref, le retour de petit Néron. Qu'est-ce que
Oui,
vous...
alors je crois que ce texte est suffisamment de qualité, il pourrait faire l'objet d'une annexe du livre. Hein. Bon, en tout cas, il rejoint tout à fait ce que j'avais expliqué dans le précédent Macron, le roi Brunzingue, dans le roi Brunzingue, hein, où effectivement, la question n'est pas de savoir si le narcissisme existe ou n'existe pas. Le problème, c'est effectivement l'exacerbation, l'outrance, le dépassement de la mesure. Voilà. On est finalement anormal si on n'a pas d'ego du tout. La normalité, elle est là aussi, hein, la normalité en un seul mot. Voilà. Mais de même, être narcissique fait partie des choses du monde qu'il faut mieux avoir que de ne pas avoir. Maintenant, il y a effectivement l'outrance. Voilà. Et sur, évidemment, la psychiatrisation des comportements de Donald Trump, je crois qu'il y a eu, il y a eu des tentatives, encore une fois, de faire un peu la clarté sur le personnage Trump, voilà, mais sans succès pour le moment. Mais encore une fois, on a là un personnage qui présente tous les symptômes de dysfonctionnement psychologique grave. Voilà, hein. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus inquiétant que finalement Donald Trump, lui, a engagé une guerre contre l'Iran qui n'avait pas vraiment lieu d'être, hein. Il n'y avait pas urgence, même si on lui a fait croire que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis. Hein, je crois que c'était un peu la position de Netanyahou, hein, qui lui aurait soufflé « Allez, Donald, vas-y, parce que sinon, tu seras attaqué ». Voilà. Mais on voit le danger. Hein. Cet homme, malgré, encore une fois, le bornage constitutionnel qui fait qu'il ne peut pas entrer en guerre, hein, une vraie guerre, sans l'accord du Congrès américain, ben il l'a quand même fait. Il l'a quand même fait. Après, il l'a rusé avec des pauses, hein, un petit cessez-le-feu par là, on remet les compteurs à zéro, et puis les 60 jours d'autorisation de la guerre sans autorisation du Congrès redémarrent, etc., etc. Hein, mais on voit que un personnage anormal peut déclencher des guerres, voilà, anormales, parce qu'encore une fois, non justifié par l'urgence.
Alors bonjour messieurs, vous avez dit qu'avec la Russie ce serait pas une guerre de tranchées, mais aujourd'hui en Ukraine les soldats sont tous dans les tranchées, cachés dans les bois, avec des feuilles sur le casque. Entre l'URSS et l'Allemagne c'était une guerre de mouvements entrecoupés de longs mois. Enfin j'ai parlé de tranchées en France, voilà c'est Verdun, voilà il n'y aura pas Verdun. Peut-être qu'il peut y avoir des
Ah oui.
tranchées là-bas, mais c'est pas ici quoi. Je ne peux pas rester à répondre pour une deuxième fois, mais si M. Bardella était élu, il y aurait un effet de sidération par le résultat qui le rend peu probable, des émeutes impossibles à juguler. La sidération empêcherait les émeutes? Je sais pas, ça là je suis un peu... bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Oh non, là, je ne pense pas, encore une fois. Là, il y aurait des ressorts psychologiques et idéologiques suffisamment forts, hein, pour entraîner ce que beaucoup regrettent chez les Français d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir l'esprit de résistance, de ne pas être dans l'insoumission, de ne pas être dans la désobéissance civile. Là, je pense que trop serait trop. Non, mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'en plus, en plus d'un éventuel chaos, selon le mot à la mode, il y aurait constitutionnel, rien de changé. C'est-à-dire qu'on se retrouverait dans la même situation de blocage. Donc, encore une fois, là, y a un point sur lequel, évidemment, je crois Jean-Luc Mélenchon a raison, comme avaient raison les gouvernants en 1945, en mettant en place une assemblée constituante pour changer cette République. Voilà, qui est obsolète. Elle est obsolète.
C'est-à-dire que Macron ou un autre s'enlèverait du pouvoir, ce qui est, à mon avis, c'est pas demain la veille que ce sera fait.
Absolument. Ben le seul qui a pris l'engagement d'agir en ce sens, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Alors,
Fils. Voilà.
merci à Monsieur Fils de ne pas accepter la thèse visant à faire croire que le RN ne serait pas un parti démocratique. Ben, c'est ce qu'il a pas, il a pas. Monsieur Fils n'a pas accrédité la thèse qui fait croire que le RN était antidémocratique. On parle surtout de LFI, voilà.
Il est dans le jeu républicain, le Rassemblement national.
C'est vrai.
Il est légalement autorisé par cette République. Voilà, donc c'est tout. Après,
Et très
est-il
légitimiste pour le
démocratique?
coup. Et
Ouais,
très légitimiste peut-être un peu trop.
démocratique, ça veut plus rien dire aujourd'hui, hein. Démocratique, il y a 50 000 types de démocratie. Tout le monde se dit démocrate, sans souvent l'être beaucoup.
Dont à l'époque, par exemple, la RDA, la République démocratique allemande, ou la Corée du Nord. Je crois que la Corée du Nord, il y a le mot démocratie dedans. Voilà, donc c'est vrai que ça ne
Oui, ben
veut plus rien dire.
oui, pour l'Europe de l'Est, c'était les démocraties populaires.
Voilà, en plus. Donc, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, et puis, faut se le redire, le RN. Et légitimiste, je veux dire le RN, alors que le centre est en minorité qui ferait que bon bah il pourrait aller bien plus loin dans son opposition, eh bien le RN ne le fait pas. Et je pense par simple légitimisme.
Le RN a deux objectifs, être élu et avoir une majorité parlementaire la plus large possible qui lui permette de gouverner. Parce que la Ve République n'est sauvable que si de nouveau on retrouve une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Est-ce que ça, c'est
Hein,
pas
car je
fini, ça, en
rappelle.
fait? Est-ce que
Ah ben
ça,
c'est.
est-ce que les gens, depuis 2024, eh ben, ils se sont pas habitués à ces trois tiers?
Ben, vous savez, ce qui est assez amusant, c'est que les citoyens français ont inventé la représentation proportionnelle. On n'a pas besoin de la mettre en place. Elle existe de fait.
C'est vrai.
On est de droit dans un système majoritaire et de fait dans un système de représentation à quatre têtes, cinq, bon, selon la manière dont on compte, en tout cas plus de deux. Voilà. Et la Ve République, dès que c'est plus de deux, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce qu'encore une fois, le pilier principal de la Ve République, c'est le fait majoritaire. Une opposition, une majorité, ce qui d'ailleurs a permis de faire que les cohabitations ont toujours bien marché, parce qu'on était toujours sur ce principe de deux blocs, hein, de deux blocs antagonistes. Voilà. Là, on en a trois, on en a quatre, etc. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que le souci du vainqueur sera d'obtenir quelque chose qui ressemble, alors, sinon à une majorité absolue, à une majorité relative très forte. Bon, là, c'est peut-être un nouveau concept de sociologie politique, une majorité relative très très forte, mais une majorité politique flirtant avec la majorité absolue.
Comme au début du deuxième quinquennat.
Tout à fait.
Alors, on va passer sur la seconde partie d'émission, mais avant ça, le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux ici à Radio Courtoisie, voilà, le bobino, c'est pour rappeler que c'est vous les patrons de cette station de radio. Nous avons besoin de vous parce que sinon, nous prendrions des annonceurs ce que nous ne voulons pas. Et vous savez très bien, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils font dans les autres chaînes de télé, de radio, etc. Eh bien, ils choisissent parce qu'ils payent. Ils choisissent les lignes éditoriales. Nous, nous voulons être libres jusqu'au bout, indépendants jusqu'au bout. Et donc, nous faisons de vous les patrons de Radio Courtoisie. Alors, je suis avec Michel Fize, sociologue. Il a écrit cet excellentissime livre Dans la tête d'Emmanuel Macron aux éditions Géopolitique Profonde. Il y a tellement de choses dans cette tête. Il y a tellement de choses, il y a tellement de cadavres dans les placards, de tiroirs ouverts, pas fermés. On peut dire que c'est un cas clinique, cher Michel.
Ah oui, absolument, hein. Alors encore une fois, il y a beaucoup de cas cliniques, hein. Nous sommes tous peut-être un peu un cas clinique, mais on devient inquiétant à partir du moment où il y a débordement de la normalité convenue, hein. Débordement de l'ego que l'on doit posséder, débordement d'une dose de narcissisme qui nous fait avancer, hein, qui donne du sens, encore une fois, à ce que nous faisons. Mais je crois qu'encore une fois, il y a eu une rupture chez Emmanuel Macron du processus de grandissement psychologique. Hein. Bon, alors, ça nous ramène à l'enfance et plus sûrement à l'adolescence, où il y a quelque chose qui s'est brisé, hein, ou quelque chose qui, au contraire, ne s'est pas effectué dans la douleur, c'est-à-dire l'apprentissage affectif et sexuel.
Ah,
Bon.
donc là, vous allez parler d'un sujet tabou dans les grands médias qui nous font passer pour une romance de Roméo et Juliette, c'est son couple.
Oui, parce qu'encore une fois, alors pour le coup, c'est un couple au profil anormal,
C'est vrai.
voire illégal.
C'est vrai.
Voire illégal. Voilà. Alors, ceci étant, il y a, je crois, des actions en cours, hein, qui tournent autour de ces personnages, de ce personnage insolite qu'est Brigitte Macron. Voilà, bah, qui fait que s'est nouée une relation évidemment précoce, hein, rapide et je dirais sans difficulté pour un adolescent. Et là, je vous parle comme le spécialiste que j'ai été de cet univers, qui a besoin de temps pour construire un cheminement sexuel. Voilà, c'est-à-dire je suis adolescent, j'avance, je tombe, je me relève, j'échoue, je n'échoue pas. Voilà. Là, pas d'échec. Hein. La sexualité lui est apportée sur un plateau. Voilà. Et avec un background familial où apparemment la notion d'interdit n'était pas très présente, semble-t-il, même si encore une fois, la vie familiale chez les Macron demeurera probablement à jamais inconnu, hein, car on sait très peu de choses, même en mettant bout à bout, bah, ça donne pas véritablement un panorama. Voilà. Mais de là est né, de toute façon, quelque chose qui va expliquer la suite, la toute-puissance, l'absence de limite,
Dites-moi,
que tout est possible,
est-ce que vous
que tout est
comprenez
permis.
que ce couple, enfin, je veux dire, les médias sont dans une forme d'omerta sur ce couple. On a eu cette intervention de la journaliste Laurence Beuneux à BFM, qui justement en a parlé en disant, oui, mais si nous voulons aussi éradiquer les questions de mœurs avec des enfants, il faut aussi mettre le doigt sur ce couple. La journaliste en face lui a dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a eu consentement, il y a eu, c'était une autre époque, etc. Alors qu'en fait, vous, en tant que sociologue, lorsque vous analysez ça, ça reste problématique.
Bah, vous savez, moi j'ai toujours en mémoire l'affaire Gabrielle Russier, hein, en 1969, hein, où cette jeune professeure était tombée amoureuse d'un élève de terminale, hein, donc qui avait quand même, je crois, 17 ans à l'époque, voilà, et
Et elle était déjà plus
qui a
jeune.
été, voilà. Alors, effectivement, il y avait un écart d'âge moins conséquent, mais quand même. On était à l'époque où la majorité civile était à 21 ans, et donc elle tombait sous le coup du détournement de mineurs. Voilà.
Et puis
Bon, et
cette dame, voilà, pour les auditeurs peut-être qui ne la connaissent pas, s'est suicidée en prison. Et il y a eu derrière ça une très jolie chanson composée par Charles Aznavour qui s'appelle Mourir d'aimer.
oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un très très beau film, une très belle chanson. Voilà, donc là, on appliquait la loi, on appliquait la loi, hein, majorité, minorité, hein, voilà. Donc pour le coup, à la limite même, la question de savoir si quand cette relation s'est nouée, Emmanuel Macron avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça n'a aucune importance. C'est la minorité, minorité. Bon, donc tout ce débat. Il y avait un écart, peu importe l'écart. L'écart était déjà important parce que, encore une fois, c'était alors une personne en plus d'autorité, hein, en position d'autorité, hein, puisque être enseignant, c'est être dans cette position de fonctionnaire d'autorité face à un élève qui, de toute façon, quel que soit son âge, était un mineur. Était un mineur. D'ailleurs, je ne sais même pas si à l'époque, la minorité sexuelle à 15 ans existait déjà. Alors, ce qui pourrait permettre de corriger un peu ce que j'ai dit, parce qu'effectivement, 14 ans, ou 15 ans, 16 ans, là, ça change un petit peu les choses, hein,
Non, mais avec
puisque.
personne ayant autorité, je crois qu'il n'y a pas cette limite d'âge. Enfin, je veux dire, il faut, je veux dire, ça n'a pas d'importance. Parce que là, c'est aggravant et le législateur n'a pas dit qu'il y avait un seuil de 15-16 ans. Là, en tout cas, avec personne ayant autorité, je dis bien.
Voilà, mais là, vous voyez, ce que l'on fait ici, c'est de s'interroger sur un phénomène sur lequel il y a une omerta totale. C'est-à-dire, on en reste, oh ben oui, c'est un couple singulier, il y a un écart d'âge important. Bon, soit dit en
Oui, mais
passant,
comment
il y a un écart.
expliquer, cher Michel, qu'en 2016-17, les électeurs sont tombés dans le panneau en voyant cette romance comme étant une forme de Roméo et Juliette du 21e siècle?
Alors là, c'est les mystères des ressentis, hein. Voilà pourquoi à un moment on a un ressenti positif, voilà. Mais je pense qu'effectivement, ce qui séduisait surtout, c'était la jeunesse, donc relative, enfin jeunesse en termes politiques, mais jeune quand on a 39 ans, c'était la jeunesse de ce président qui semblait venu de nulle part, qui nous promettait un nouveau monde, voilà, la disparition du clivage gauche-droite,
Bah justement,
plus de
tiens, sur ce nouveau monde,
chômage.
pour moi, sur ce nouveau monde, il a tenu toutes ses promesses, hein. Parce que le nouveau monde ne signifie pas un monde merveilleux, hein. On voit quand même une accélération vers quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce qu'on a connu auparavant.
Oui, là, moi, je parlerais plutôt d'un monde ancien aggravé.
Un monde ancien gravé, d'accord. Comment ça?
Bah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le prolongement de l'ancien monde qu'il a aggravé par une pratique du pouvoir de plus en plus solitaire. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, devrait interpeller aussi sur la légitimité du quinquennat qu'on nous a servi comme une grande avancée démocratique. Hein? Bon, moi je redis, pour moi il y a deux régressions démocratiques aujourd'hui. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, voilà, muni de pouvoirs qui lui assurent encore une fois une position de Néron, de dictateur, voilà, sans contre-pouvoir véritable, hein, puisque on le sait, il y a eu aussi, je dirais, un affaiblissement, je dirais, de la légitimité des grands conseils qu'ont tout de même été et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, voilà. Avant qu'ils ne deviennent l'un et l'autre des forces quand même politisées, hein.
Alors, j'ai néanmoins une question d'auditeur qui arrive. En cas de trouble majeur à l'issue de l'élection présidentielle, quelle serait l'attitude de l'armée?
Je pense que bon, le propre d'une armée républicaine, c'est d'être aux ordres du pouvoir légitime. Bon, ça c'est le principe. Bon, quand on sait maintenant quel est le profil du chef d'état-major des armées, Monsieur Mandon, hein, qui est un très 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 proche d'Emmanuel Macron, hein, bon, je doute qu'évidemment on fasse un pronunciamento, comme aurait dit le général de Gaulle, contre le pouvoir politique. Voilà. Donc, que fera l'armée? Bah, je crois qu'elle fera ce qu'on lui dit de faire. Voilà. Je ne vois pas une armée s'engager, encore une fois, dans un coup d'État.
C'est pas le 18 Brumaire, quoi.
Non, non. Je pense que ce qui sera mise en scène à ce moment-là, c'est évidemment les forces de police. Voilà. Comment vont se comporter les forces de police, dont parfois on doute un peu du caractère républicain. Bon, Regardons le mouvement des Gilets jaunes, hein, pour ne prendre que celui-là. Donc, police et manifestants dans la rue, hein, c'est la baston assurée.
Bien sûr.
Bon, là, il y aurait rien de nouveau. Mais non, je crois que ce qui est inquiétant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir éviter ces désordres, étant entendu que chaque candidat a le sentiment d'être le porteur à lui seul de la légitimité républicaine. Voilà. Donc, quel que soit l'élu, il sera contesté par le vaincu qui considérera qu'il n'a pas la légitimité. Ce qui a d'ailleurs toujours été la position de Jean-Luc Macron. De Jean-Luc Macron. Bon,
Jean-Luc
j'ai
Macron, pas
inversé
mal
le nom.
ça.
Hein? Voilà. À retenir, à mettre de côté,
Ben
à
oui.
réutiliser. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a jamais accepté la victoire d'Emmanuel Macron. Donc là aussi, il y a eu un ressenti pathologique. Hein? Le rapport Mélenchon-Macron, c'est un rapport pathologique
Alors, question.
de la part de Monsieur Mélenchon.
Alors, un auditeur nous dit, le FN de Jean-Marie Le Pen était déjà un parti légitimiste républicain. Oui. Ah, tiens, ne pas vouloir
Alors
défi.
là, on peut peut-être ajouter,
Dites-moi.
oui, si on considère que le projet de Jean-Marie Le Pen n'a jamais été véritablement d'exercer le pouvoir.
C'est vrai. C'est vrai.
Voilà. Donc le risque extrémiste était quand même limité.
Ne pas vouloir définir comme extrême la LFI est un non-sens. Politique racialiste, violence antifa, refus de la démocratie, vision anti-France, racisme anti-blanc. Monsieur Mélenchon devrait faire l'objet aussi d'une analyse psychologique.
Alors oui, sur la dernière remarque, hein, il y a sans doute des côtés bipolaires chez Monsieur Mélenchon, hein, quand on se souvient de sa déclaration La République, c'est moi, hein, avec les yeux exorbités comme ceux d'Emmanuel Macron dans sa grande conférence, meeting, voilà. Bon, bref, donc tout ceci doit alerter un peu sur, évidemment, j'allais dire la sainteté, non, l'état de santé serein de ces personnages. Voilà, pour le coup, j'ai oublié le début de la question.
Ben, on nous dit voilà que pour cet auditeur, la LFI est extrême, vu sa politique racialiste, ses violences antifa, refus de la démocratie, vision anti-France ou le racisme anti-blanc.
Alors, vous voyez l'intérêt de lire les commentaires comme je fais après
C'est vrai que
chaque
vous lisez tous
passage
les commentaires.
chez PTV. Je lis les commentaires. Voilà.
Oui?
Ben, je trouve que c'est un commentaire extrêmement sensé, ce qui vient
Oui?
d'être dit, qui permet de dire peut-être, pour employer une expression juridique, un mot juridique, quasi-extrémisme de gauche.
D'accord.
Permettrait de, voilà, peut-être quelque chose qui rapprocherait la radicalité politique de Jean-Luc Mélenchon d'un certain extrémisme de gauche. Voilà. Puisque, de toute façon, le champ de l'extrême gauche a été déserté, hein, puisque ceux officiellement baptisés d'extrême gauche ne se revendiquent plus comme ça. Alors qu'à l'extrême droite, il y a encore des groupuscules d'extrême droite. Là, il y a des vrais groupuscules d'extrême droite. Voilà. Donc, par rapport à cette remarque, voilà,
Alors,
disons quasi-extrémisme.
il y a un commentaire qui dit: le drame n'est-il pas la combinaison d'un Néron et d'une opposition éclatée et nullissime, peut-être dans les compromis et compromissions? Qu'en est-il des rumeurs concernant les 80 têtes nucléaires que la France est supposée détruire pour les remplacer par de plus récentes et qui seraient susceptibles d'être transférées au régime de Kiev? Je ne savais pas. Ce jeu avec les allumettes dans la poudrière ne risque-t-il pas de faire exclure la France du Conseil de sécurité de l'ONU? Les autres grandes puissances ne désirent pas risquer leur existence par un petit personnage n'ayant rien compris et disséminer la menace globale. Les récentes simulations de frappes nucléaires contre la Russie, effectuées par les Rafales français avec les Polonais, font penser que le sort de la France serait réglé en quelques minutes. Une simulation récente montre que 2% du potentiel nucléaire russe suffit pour vitrifier la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Étant la seule puissance nucléaire potentielle, la France serait prioritaire pour l'extermination. Merci Macron.
Oui, mais alors là, c'est là, tout à l'heure, on parlait du changement des modalités de la guerre. Voilà. Je pense qu'il faudrait aussi avoir un changement de regard sur l'utilisation de la force nucléaire. Hein. Le discours qui consiste à dire, ah ben oui, mais bon, que ce soit la Russie ou les États-Unis peuvent détruire la France très rapidement, la France ne pourrait que renvoyer une petite riposte qui ferait pas grand mal. Mais c'est plus comme ça que ça se passe. Hein. Je pense qu'aucune des grandes puissances n'a en tête d'utiliser les armements nucléaires stratégiques.
Sinon, ça se serait déjà fait.
Oui. Ce sera du saupoudrage. Voyez, hein. On parle de missiles à tête nucléaire, mais de missiles à qui on enlève la tête nucléaire pour que ce ne soit plus des missiles nucléaires, voilà, mais qui pourraient le devenir si on le désirait. Ouais, mais c'est des petits trucs, hein, c'est des coups, voilà. Des coups nucléaires.
Alors,
des coups nucléaires sans risque, encore une fois, de pulvériser la planète.
Alors, oui. La Russie, alors un auditeur nous dit, la Russie intervient en soutien aux populations civiles de l'est de l'Ukraine. L'OTAN a placé des armes offensives aux frontières de la Russie, qui a été amenée à réagir. C'est vrai.
Oui, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. J'avais d'ailleurs fait un petit texte sur le, ouais. sur le sujet. Bon, c'est vrai que il y a des responsabilités de l'OTAN qui n'a pas joué le jeu, voilà, et qui a profité de la disparition de l'Union soviétique pour évidemment. Oui, j'allais presque dire quelque chose que Vladimir Poutine ne pouvait pas supporter comme touche à l'État, c'est l'humiliation. Quelque part, on a humilié un pays qui a été le grand empire tsariste et quand même la grande Union soviétique sur la scène internationale. Donc, il y a effectivement des origines lointaines, des responsabilités de l'OTAN. Voilà, mais je pense qu'il Il faut être imbécile pour ne pas en convenir.
Alors, je rappelle, dans la tête d'Emmanuel Macron, écrit par Michel Fize aux éditions Géopolitique Profonde. Vraiment, procurez-vous ce bouquin, allez sur le site de Géopolitique Profonde. Et vraiment, un excellentissime livre. Alors, que penser...
Il est tout chaud, je crois. Hein.
Voilà, il est tout chaud. En effet, il vient à peine de sortir. Que penser d'une démocratie dans laquelle un des partis promet de mettre le pays à feu et à sang si son concurrent est élu? Et ce parti n'est pas dissous. Et on parle de démocratie. En comportant ces fadaises, vous semblez les crédibiliser. Soit nous sommes en démocratie et un tel parti doit être interdit comme contrevenant aux règles, soit nous ne sommes pas en démocratie et tout fin débat est parfaitement vain et hypocrite, bien courtoisement.
Oui, alors, je crois que ça permet de dire que s'il y a un phénomène qui fait vivre la France en particulier depuis longtemps, c'est l'individualisme. Bon. L'individualisme en soi n'est pas une mauvaise chose, puisque évidemment, il permet à l'individu d'exprimer sa valeur d'individu. Voilà. Il devient problématique quand il est exacerbé et qu'il devient ce que j'ai appelé dans un autre livre, déchirure, hein, l'individualisme triomphant. Voilà. L'individualisme roi, celui qui ne reconnaît aucune supériorité. Voilà. Mais la preuve en est apportée par la multiplication grotesque des candidatures à l'élection présidentielle. Vous rendez-vous compte qu'on en est déjà à plus de 30.
C'est vrai, c'est dingue. Hein.
On pourrait même dire 40. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la folie du pouvoir, parce que tous ces gens-là ne sont mus que par la volonté de s'installer sur le trône présidentiel. Voilà. Ce qui permet de dire que non seulement il faudrait supprimer cette élection qui est le propre même de l'antidémocratie, mais rendre le palais d'Élysée aux citoyens français. Voilà, en faire un musée. Voilà. La République n'a pas à loger, encore une fois, dans des bâtiments d'un autre régime. Voilà, c'est une usurpation. Pour moi, c'est une usurpation de bâtiments. Vous voyez? Donc, je pense que chacun est convaincu, hein, ce que j'ai aussi expliqué dans Déchirure, hein, on est dans la crise des légitimités. Plus personne ne reconnaît la légitimité de personne. Le principe aujourd'hui est simple, chacun sait tout sur tout. Point barre. Chacun sait tout sur tout et nie complètement la parole de l'autre. Voilà.
Alors, en
Il
2017, commentaire, on nous a fait le coup de JFK, la jeunesse, la nouvelle frontière, les matins qui chantent, les meetings surchauffés par la brigade des acclamations spontanées, les tailleurs Chanel, de la jolie femme, la séduction. Le coup de JFK jouait aussi sur la nostalgie des années 60. Les retraités ont craqué pour le petit-fils génial.
Oui, je crois que Emmanuel Macron a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, d'abord politiquement, hein, par le retrait, enfin le retrait, la contre-performance de François Fillon, bon, qui logiquement aurait dû être le président de la République. Bon, c'est raté, hein, mais attention, hein, tous ces scénarios peuvent se reproduire, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein,
Est-ce qu'on pourrait avoir,
Bardet.
par exemple, moi j'ai filmé ça il y a quelque temps, enfin il y a 2 semaines de cela, est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de Macron 2, si je puis dire, avec Gabriel Attal? Parce que j'avais l'impression, d'ailleurs, les gens m'ont dit, nous revenons à 2017. Voilà, c'est-à-dire que voilà, les gens, enfin, en tout cas qui étaient dans les meetings de Macron, de Macron en 2017, m'ont dit lorsqu'il était au meeting là de Gabriel Attal, ah là là, nous revoyons l'ambiance de 2017.
Ah oui, tout à fait. Bah, je pense qu'il faut espérer que les Français auront été échaudés et qu'ils ne répéteront pas l'erreur de 2017. Hein. Car évidemment, personne n'a oublié que Édouard Philippe et Gabriel Attal ont été de profonds et dévoués premiers ministres au président Macron. Hein. Voilà. Donc, on va pas nous faire le coup du renouveau politique avec deux hommes de l'ancien monde, de l'ancien monde. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a des parmi les choses qu'il faudrait aussi peut-être revoir, c'est les instituts de sondage. Hein. Bon, alors c'est vrai que comme scientifique et que tous les gens de ma corporation des sciences humaines, on a toujours été très très critiques vis-à-vis de ces fabricants d'opinion. Hein. Mais je rappelle que ce sont les sondages qui ont fabriqué, hein, la légitimité de Ségolène Royal, pour ne prendre que elle,
C'est
hein,
vrai.
qui l'ont imposée au Parti socialiste. Hein. Ce n'est pas le Parti socialiste qui aurait désigné cette personne. Voilà, donc là, on nous fabrique un Édouard Philippe absolument magique, magique, bon, dont je vois toujours pas très très bien le programme. Bon, alors je vois pas du tout de nouveau monde, hein, pour le coup avec lui non plus, hein, je vois pas de nouveau monde. Voilà, mais je crois que avec les imbrications du judiciaire, indirectement, inconsciemment ou pas, hein, on pourrait avoir un scénario en 2027 où il n'y aurait ni Bardella ni Marine Le Pen.
Comment ça? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire.
Parce que la justice serait passée par là.
Ah!
Alors, pour Marine Le Pen, bon, ça pourrait être le cas en juillet prochain, sauf que là, la surprise serait que finalement, Marine Le Pen ne soit pas, hein, condamnée comme auparavant, hein, donc que la décision soit inversée, contre toute attente, hein, mais
Mais
pourquoi
là,
pas,
il n'y aurait
pourquoi
pas
pas.
une réaction forte, populaire? Parce que là, c'est une façon de voler une élection à au moins 40% de Français. Au moins, pour prendre le score de 2022.
Oui, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que la justice est curieusement
C'est vrai.
intervenue en pleine période présidentielle? Ben oui, Monsieur Fillon n'a pas été élu. Voilà. Donc pour Jordan Bardella, bon, bon, candidat aujourd'hui, potentiel président aujourd'hui, on verra en 2027.
Mais c'est vrai que là, vous avez touché un point important. Madame Le Pen, lorsqu'elle a eu son inéligibilité, a organisé un grand meeting place Vauban dans le 7e arrondissement. Bon, j'étais parti pour en faire un reportage. Et bien, il y avait peu de monde. Il y avait moins de monde pour Madame Le Pen que pour les manifestations de Monsieur Florian Philippot. Enfin, c'est quand même pas normal, théoriquement.
Bah, c'est vrai que bon, là, de toute façon, il y a eu au Rassemblement national un déplacement de fait d'intérêt sur la personne de Jordan Bardella, hein, qui, dans l'esprit de beaucoup et d'abord au sein même de son parti, presque devenu le candidat naturel, pour reprendre une expression un peu ancienne, le candidat naturel, encore une fois, de cette élection. Mais en politique, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je sais pas, j'ai des sentiments un peu partagés sur la décision de justice de juillet prochain concernant Madame Le Pen. On a tellement dit
Vous
que
pensez qu'il y aura qu'ils vont confirmer l'inéligibilité?
ben non, je pense le contraire, justement. Que l'inéligibilité ne serait pas confirmée.
Elle serait pas confirmée. Donc du coup, ça
Serait
ferait
donc
ce serait
retirée.
du coup, ce serait quand même peut-être un bazar pour le Rassemblement national, parce que je vois là. Vous avez vu Jordan Bardella, il s'y croit déjà. Madame Le Pen, on l'entend de moins en moins. On a l'impression qu'elle le pousse à y aller ou qu'elle va se mettre en retrait, voilà, en sa faveur. Ce serait quand même.
Moi, je n'ai pas tout à fait ce sentiment. J'ai
Quel sentiment vous
l'impression
avez?
qu'en écoutant Marine Le Pen, qu'elle reprend du poil de la bête, quelque part.
D'accord?
Hein? C'est-à-dire qu'elle est moins effacée, elle est moins en retrait, elle paraît moins démotivée qu'elle l'a été il y a encore quelques mois. Mais bon, là, on est dans l'ordre du ressenti. Hein? Le vôtre contre le mien, c'est peut-être deux ressentis qui peut-être s'équilibrent. Voilà, ou s'annule, peut-être qu'on est on est au, dans aucun des bons ressentis. Mais vous savez, avec la justice, rien n'est joué tant que le verdict n'est pas prononcé.
C'est vrai. Mais du coup, 2027, imaginons que ça se passe. Est-ce que le Rassemblement national peut perdre cette élection? Hors l'arrivée des juges.
Alors, peut perdre cette élection d'abord si on avait au deuxième tour contre le candidat du Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon, que l'on dit perdant à tous les coups. Bon, là aussi, attention, attention, hein, rien ne dit que la partie gauche, au sens très large du terme, et la partie anti-RN ne se rallierait pas à la personne de Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage, bon, au candidat du Rassemblement national. Moi, je pense que cette élection dont on dit le résultat assuré, pour moi, est plus incertaine que jamais.
Très
Elle est
incertaine.
plus
Mais c'est
incertaine
vrai
que
que
jamais.
le centre n'a pas de. Voilà, on ne peut pas dire que Attal ou Édouard Philippe, même si il n'y en a qu'un qui ira au final, on ne peut pas dire que c'est des gens qui vont regrouper 20% d'électeurs. Je n'y crois pas trop. Parce qu'ils ont des faiblesses, des carences énormes. Mélenchon, oui, il a une base, mais est-ce que ce sera suffisant? Et Je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est la campagne présidentielle, j'imagine, la plus indécise de l'histoire.
Voilà. Et alors peut-être si on voulait critiquer une démocratie, hein, ben c'est cette démocratie que certains auteurs ont décrite à maintes reprises, la démocratie sondagière.
Mais est-ce que c'est fini le droite-gauche classique?
Non. Je pense que le droite gauche, hein, c'est la racine profonde de la Révolution française. Je crois qu'on n'est à jamais clivé entre conservateurs et progressistes,
Droite
pour
gauche, c'est quoi?
reprendre cette
C'est
expression.
dorénavant le droite gauche, ce n'est plus comme à l'époque LR, Parti Socialiste, UMP, PS, ou je sais pas, ou RP, RPS. C'est RN contre LFI.
Non, c'est un peu. Alors, il y a le clivage partisan, mais il y a aussi le clivage psychologique de la société française, hein, entre ceux qui sont attachés plus à certaines valeurs que l'on appelle modernes et ceux qui sont attachés à des valeurs plus traditionnelles. Voilà. Bon, c'est vrai que la justice, l'égalité, la propriété sont quand même des choses qui différencient les Français, hein, et qui sont en soi. Et qui sont en soi un clivage. Voilà. Que récupèrent ou pas ou mal les formations politiques, voilà, mais qui traînent à côté de ces clivages partisans. Voilà. Donc je pense encore une fois que bon, liberté, égalité, fraternité, c'est pas inscrit simplement sur les frontons de nos écoles. C'est aussi dans les têtes. Voilà. Et que quelque part, liberté, égalité, fraternité, en y réfléchissant bien, vous y retrouvez et la droite et la gauche. Pas que la gauche révolutionnaire, hein. Liberté, hein, au sens moderne du terme, c'est quand même plutôt liberté économique.
C'est vrai.
C'est la droite.
C'est le
C'est la droite.
libéralisme.
Oui, c'est le libéralisme. Bon, l'égalité, c'est plutôt à gauche, et la fraternité, hein. Je crois que la gauche n'a plus le monopole de la fraternité. On peut plus dire la droite, c'est la défense de l'élite, la défense des riches. C'est un petit peu réducteur. Voilà. Donc cette devise, elle est plus consensuelle peut-être qu'elle l'était en 89. Voilà.
Macron, est-ce que Macron, c'est la droite?
Ah oui. C'est la droite qui ne dit pas son nom. Parce que bon, effectivement, lui, il renie toutes les valeurs qui ne sont pas les valeurs de droite. Hein. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, c'est la défense de l'élite contre l'égalité, hein. C'est la défense de l'individu contre le collectif regroupé, les corps intermédiaires. Oui, c'est un faux homme de gauche à supposer qu'on ne l'ait jamais considéré ainsi, et un vrai homme de droite.
Aujourd'hui, imaginons s'il ne restait pas. Moi, je pense comme vous, hein, qu'il va chercher à garder le pouvoir. Aujourd'hui, quel serait son successeur, naturel?
Mais il n'en a pas.
Après
Il
moi, le
n'en a
déluge?
pas. Ben oui, parce qu'encore une fois, un mégalotimiaque, c'est moi tout seul, sans les autres. Voilà. Et il a fait ce qu'ont fait tous les présidents sortants, à savoir, eh bien déjà, attaquer ceux de son propre camp. Voilà. Donc effectivement, si on employait le terme nuire, il a cherché à nuire à Édouard Philippe. Il a beaucoup aimé à Gabriel Attal avant de ne plus le supporter. Mais je connais pas de président sortant qui ait eu un héritier, voilà, naturel. Voilà. Mais
Comment on
qui ont
l'explique
tous
ça?
marqué,
On l'explique
qui
par
ont
la psyché, c'est-à-dire qu'il faut avoir un ego tel, un narcissisme tel, que seul le surmoi compte.
Oui, parce que, encore une fois, une sortie du pouvoir, c'est de l'ordre de l'impensable. de l'inacceptable en son for intérieur. Voilà. Et donc, c'est quelque part refuser que quelqu'un de son propre camp vienne s'asseoir sur votre siège, que pour le coup, on préfère confier à l'adversaire. Ce qu'a fort bien fait François Mitterrand, hein, en ruinant la carrière de Michel Rocard, voilà, et en privilégiant de fait hein, celle de Jacques Chirac. Hein. Mais ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Hein. Oui, je connais pas de présidents sortants qui ont investi leur successeur, qui ont désigné leur successeur. D'ailleurs, Emmanuel Macron a très clairement dit hein, quelque part qu'il prendrait pas position, qu'il veillerait simplement au respect des règles, et qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère, parce que là, on nous refait le coup de l'ingérence. Pour moi, la première ingérence, c'est les instituts de sondage.
C'est vrai. Voilà. Mais tiens, justement, on sait à qui appartiennent ces instituts de sondage ? Aux milliardaires, j'imagine.
Oui, oui. Et puis surtout, aux commanditaires des sondages. C'est-à-dire, le commanditaire X va avoir un sondage plutôt de couleur X.
C'est vrai.
Etc. C'est ce qu'on appelle les sondages maison. Voilà. Je pense qu'une élection comme l'élection présidentielle mériterait l'effacement temporaire des sondages.
Oui, parce que ça influence grandement. Et comme vous l'avez dit, déjà sous Hollande et Ségolène Royal, elle avait gagné la primaire interne au Parti Socialiste parce que voilà, elle avait ses sondages qui lui étaient favorables. Au final, non. Tiens, j'ai d'autres commentaires. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Pensez-vous que si la France devenait une république suisse, ni roi ni président, avec des référendums ? Qu'est-ce que vous pensez, tiens, de ce système suisse ?
Ah, alors, c'est vrai que la Suisse est un plus petit pays. Hein, donc, comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau, c'est plus facile d'avoir une démocratie pure hein, dans un pays où on peut pratiquer le référendum, où on peut solliciter rapidement les citoyens. Mais je pense qu'encore une fois, parmi les grandes réformes qu'il y a à faire dans cette République, d'une part, la réforme du référendum, hein, en élargir peut-être le champ d'application, en élargir les possibilités de mise en œuvre, et puis en introduisant peut-être ce qui d'ailleurs relie et l'extrême gauche, entre guillemets, et l'extrême droite, entre guillemets, c'est le référendum d'initiative citoyenne.
Bien sûr.
Oui.
Il nous reste 4 minutes, cher Michel, et je vais vous poser les 3 dernières questions qui ne sont pas, qui sont un peu longues. La grande faute de Macron dans l'affaire ukrainienne, c'est la diffusion de la vidéo d'une conversation confidentielle avec Poutine où il prétend lui apprendre le droit international au milieu de poulettes gloussantes. On est vraiment loin de Kissinger, certes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, oui, ben bien sûr. Hein. Bien sûr, encore une fois, il se prend pour le plus grand diplomate du monde, voilà, et il aura passé ses quinquennats à faire la leçon de morale et à Trump, et à Poutine, et à Netanyahou. Voilà, donc, en s'instituant sur le piédestal de la moralité publique, de la moralité internationale, c'est moi qui ai raison. Voilà, donc effectivement, d'où le fait que, quelque part, il considère que c'est plus facile de s'attaquer à Poutine qu'à Trump. Parce que Trump, c'est un expressif. Hein, voilà, donc Poutine... Pour Macron, il a la faiblesse d'être pas expressif. Donc, il lui donne l'illusion qu'on peut taper Poutine. Et puis Poutine, c'est à côté. Hein, c'est l'Europe. C'est...
Alors, deux voilà, questions. Donc, bonjour à tous. Que pense Michel Fize de la liaison de M. Bardella avec les Bourbons-Parme de Sicile ? N'est-ce pas un piège tendu par les puissances d'argent ?
Ben, honnêtement, pour employer une expression un peu populaire, je dirais que ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. Comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Hein. Donc, si c'est vraiment une question d'amour, hein, voilà,
Bien sûr.
l'amour peut justifier, bon, des couples qui paraissent un peu illégitimes par rapport aux idéologies défendues, hein, pour...
Dernière question, un auditeur nous appelle, nous a dit, je pense que les élites au pouvoir envisagent deux scénarios, et je vous laisserai qu'une minute malheureusement. Dans le premier, la victoire du RN est envisagée, et ah bien, les questions hein, continuent à arriver. Le RN est envisagé, et M. Mélenchon appellerait alors à l'insurrection. Dans le second, les provocations vis-à-vis de la Russie finiraient par provoquer les ripostes des Russes utilisant des armes nucléaires tactiques contre Kiev. En ce cas, l'OTAN riposterait très certainement de façon forte.
Oui, alors ça c'est le piège de l'engrenage, hein, encore une fois, pousser suffisamment tabou Vladimir Poutine pour l'obliger quelque part à riposter, bon, alors d'une manière
Bon.
quand même contrôlée.
Bien sûr, dans tous les
Voilà.
cas, on en a parlé dans cette émission de ces scénarios. Cher Michel, voilà votre dernier livre dans la tête d'Emmanuel Macron aux éditions Géopolitique Profonde. Vous le trouverez sur le site de Géopolitique Profonde, j'imagine sur les sites type Amazon, etc. Mais allez plutôt sur le site. Vous le retrouverez bien entendu ce livre chez des libraires amis type librairie. Du Logos. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, cher Michel? Là, vous êtes en plus, vous êtes en Vendée, bien là. Hein vous êtes. J'aimerais bien être
Je
avec vous
prends,
là, pour le coup. Hein
voilà. Je prends des forces pour la grande rentrée
Bah,
GPTV.
vous avez bien
Je
raison.
pense qu'on va avoir du boulot dans les mois qui viennent.
C'est clair. Merci à vous, cher Michel. Voilà, Michel Fils, dans la tête d'Emmanuel Macron aux éditions de Géopolitique Profonde. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Je remercie Virginie, Patrice. Et ben, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je suis dans le Jura pour le grand événement Nexus. Je vous retrouve dans 2 semaines. Passez une excellente journée. À la prochaine. Salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 20 juin 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.